I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Allison, you know, it's dramatic when you see it in person, the level of water loss. And we'll go ahead and push in and show you on the rocks. And keep in mind, this is the largest reservoir in the United States, and it is at its lowest level since it was built.
Le lac Mead, le plus important réservoir d'eau des États-Unis, un lac artificiel créé sur le cours du Colorado. Sur les images diffusées par NBC News, le lac ressemble à une cuvette qui aurait perdu la moitié de son eau. La trace est visible sur les promontoires rocheux qui bordent ce lac, essentiel pour des millions d'Américains. Une illustration de la crise de l'eau qui menace l'ouest des États-Unis. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et je vous invite à me suivre direction le Colorado pour prendre la mesure avec Anaïs Moutot des effets du réchauffement climatique sur l'un des fleuves les plus emblématiques des États-Unis. Ce n'est pas la route 66, cheveux au vent et musique de Milky Chance pour voir défiler les kilomètres, mais le tracé du Colorado n'en est pas moins mythique. Le fleuve long de plus de 2300 km, plus de deux fois la Loire, traverse une partie de l'ouest américain. Né dans les Rocheuses, il termine sa course dans le golfe de Californie. Une course de moins en moins folle, de plus en plus lente, car le Colorado s'épuise, à l'image du lac Mead, qui n'a plus atteint sa pleine capacité depuis 1983. Let's Get Drunk in Colorado, chante Nicolas Joseph, mais c'est bien le lac qui a la gueule de bois, vivant sa vie comme s'il n'y avait pas de lendemain. Bonjour Anaïs Moutot.
Bonjour Pierrick.
Vous vous êtes rendu au chevet du fleuve Colorado, je le disais, c'est l'un des fleuves emblématiques des États-Unis. Quelle est son importance pour la population ?
Oui, c'est un fleuve très important pour l'Ouest américain, qui est une zone très aride, donc qui ne peut pas compter trop sur la pluie pour ses besoins en eau. C'est vraiment le fleuve qui a permis à l'Ouest de se développer et de prendre l'importance économique qu'il a aujourd'hui, notamment la Californie, qui est la cinquième économie mondiale. Donc c'est un fleuve, il part des Rocheuses dans l'État du Colorado. Il passe par l'Utah, l'Arizona, puis le Nevada et la Californie, mais il fournit aussi de l'eau via ses affluents aux États du Nouveau-Mexique et du Wyoming, et il finit sa course au Mexique dans un delta desséché. Donc au total, il fournit de l'eau à 40 millions d'habitants dans 7 États américains et au Mexique, grâce à un système qui est assez élaboré de réservoirs, d'aqueducs, de canaux, qui dévie le liquide vers les zones d'habitation et de culture. C'est une eau qui sert à boire, à se doucher, à arroser les pelouses, etc., mais aussi aux industries et surtout à l'agriculture qui consomme 85% de l'eau de la Colorado River. Donc ça permet d'irriguer 22 millions d'hectares de cultures qui fournissent la majorité des légumes verts des Américains pendant l'hiver.
Si on parle de ce fleuve, hein, c'est pas seulement pour le plaisir de chanter des chansons à la gloire du Colorado, c'est parce que le débit du fleuve ne cesse de diminuer depuis plus de 20 ans. Vous avez-vous pu constater les dégâts au cours de votre reportage pour les Éco Weekend ?
Oui, j'ai commencé mon reportage au lac Mead, qui est le plus grand réservoir du pays et qui fournit l'eau de quasiment tout le Nevada, 40% de l'Arizona et 30% du sud de la Californie. Et en fait, ce lac, il est entouré par des montagnes couleur ocre, parfois un peu rouge, et sur le pourtour, on voit une bande blanche. Les Américains, ils parlent de bathtub ring. Donc en fait, c'est ce dépôt qui apparaît dans les baignoires qui sont mal nettoyées. En fait, cette bande, elle est blanchie par le calcium et le sel de l'eau qui était là avant. Donc quand le lac, il était rempli à 95% au début des années 2000. Et donc ça permet de voir jusqu'où montait le lac avant. Et c'était environ 50 mètres plus haut que le niveau actuel. Parce que maintenant, ce lac, il n'est plus rempli qu'à 35%. C'est le niveau le plus bas de son histoire depuis sa création dans les années 30. Et ça fait aussi qu'on voit des îlots au milieu du lac qui sont de plus en plus apparents. Et j'ai aussi vu les dégâts à la Salton Sea, qui lui est un lac dans le sud de la Californie, qui est alimenté par l'eau des champs de l'Imperial Valley Et c'est un lac qui reçoit du coup de moins en moins d'eau. Parce que notamment une partie de cette eau qui était utilisée par les agriculteurs, elle a été déviée vers les villes de la côte pacifique qui grossissent vachement. Et donc ce lac il se vide et ça fait qu'il y a pas mal de nuages de poussière quand on se promène dans le coin qui sont problématiques pour la santé et qui causent pas mal d'asthme chez les enfants notamment.
Ce manque d'eau, hein, on va voir qu'effectivement il peut poser des problèmes pour l'agriculture mais aussi pour se laver. Vous parliez de ces problèmes d'asthme aussi pour les enfants. Mais ça peut avoir aussi des répercussions sur la production d'électricité qui est un autre point noir de la région.
Oui, on a une quinzaine de barrages sur le fleuve Colorado et une centaine sur ses affluents, dont plusieurs sont très importants pour la production électrique, avec environ 780 000 foyers qui sont fournis en électricité par cette hydroélectricité. Il y a notamment le barrage Hoover, sur lequel débouche le lac Mead. C'est dans un canyon qui est à la frontière de l'Arizona et du Nevada, avec une sacrée descente qui permet de propulser l'eau dans la cuve et de faire tourner des turbines très impressionnantes que j'ai pu visiter. Et donc, en fait, quand le lac il était rempli à un bon niveau, à 95%, eh ben, les turbines, elles tournaient vraiment bien et ça fournissait de l'électricité à 450 000 foyers au Nevada, en Arizona, en Californie. Mais avec un lac qui se vide, eh ben, ça permet pas de faire tourner aussi bien les turbines. Donc, on a plus que 350 000 foyers, donc une baisse de 25%. Donc, maintenant, le problème, c'est que ça oblige les compagnies électriques à trouver d'autres sources alternatives d'énergie qui sont souvent bien moins décarbonées, comme les centrales à gaz. Et si le lac continue de baisser, en dessous d'un niveau de 290 mètres, eh ben, les turbines, elles ne fonctionneront plus du tout, sachant que là, on est à environ 330 mètres. Mais l'idée, c'est de faire qu'on n'en arrive pas là, en réduisant les allocations en eau des États qui sont en aval du réservoir, pour garder assez d'eau dans le réservoir et s'assurer que la production d'hydroélectricité puisse continuer.
Je suis stressé. Comment est-ce qu'on peut expliquer aujourd'hui ce stress hydrique du Colorado ? On parle même d'aridification.
C'est l'effet du changement climatique qui réduit les volumes de la fonte des neiges dans les rocheuses, d'où part le Colorado. Et ce changement climatique, il aggrave aussi une sécheresse qui fait que les terres, elles absorbent l'eau plus rapidement et donc moins d'eau rejoint le cours du fleuve. Par exemple, quand vous arrosez votre champ, l'eau restante qui allait alimenter le fleuve Colorado a diminué. Mais il n'y a pas que le changement climatique, parce que, en fait, vu la croissance de la population de cette zone, le débit de la rivière, même sans changement climatique, il était déjà limite. Parce qu'en fait, ce débit, il a été surestimé au moment de son évaluation au début du XXe siècle. Cette estimation, elle a été faite pendant 10 années anormalement pluvieuses. Et puis les décideurs, ils ont préféré ignorer les alarmes de certains scientifiques aussi, parce que c'était plus facile pour réussir à mettre tous les États d'accord de dire qu'on avait plus d'eau dans ce fleuve, qu'on avait un débit plus important. Donc chacun vivait déjà un peu au-dessus de ses moyens, avec des allocations qui étaient basées sur une estimation d'un débit de 20 milliards de mètres cubes, alors qu'en réalité, c'était plutôt 18 milliards. Et là, avec la sécheresse, c'est plus que 15 milliards de mètres cubes. Donc là, ça devient vraiment problématique.
Que font les autorités pour faire en sorte que la situation ne se dégrade pas plus dans une région qui connaît une forte croissance de sa population ?
Alors, les autorités des différents États savent toutes qu'il faut réduire leur consommation d'eau, mais la question qui provoque beaucoup de conflits, c'est de combien chacun et dans quel secteur, hein, sachant que tous ces États, toutes ces villes, elles veulent rester attractives et attirer les populations et les industries. L'industrie, on a tendance à moins en parler, mais cette question des ressources en eau commence à provoquer le rejet de l'implantation, par exemple, de centres de données dans des régions arides, parce que ces centres de données, avec des milliers de serveurs qui moulinent tous nos documents dans le cloud, et ben ils ont besoin d'eau pour être refroidis. Et donc, on a vu, par exemple, fin août, Facebook qui s'est confronté à une levée de boucliers du conseil municipal de Mesa, qui est une ville dans l'Arizona, à l'idée de l'implantation d'un nouveau data center dans cette zone qui est très aride. L'autre chose sur laquelle les autorités essayent d'agir, c'est la consommation domestique de chaque citoyen. Donc en Californie, les autorités, elles ont beaucoup mis l'accent sur la réduction de la consommation intérieure, donc ne pas prendre de bain, etc. Mais l'autre axe de plus en plus, c'est la consommation extérieure, donc avec des obligations, par exemple pour les golfs, de moins arroser, de repenser tout un paysagisme qui est centré autour du gazon, qui a quand même été un peu le cœur de cette American Way of Life jusqu'ici, hein, avec ses banlieues à la Wisteria Lane. Donc, par exemple, à Las Vegas, qui est contrairement à l'image qu'on peut avoir de cette métropole, est assez en pointe sur ces questions de gestion de l'eau. Ils sont les plus avancés donc dans cette réduction pour les golfs et pour le gazon. Donc, depuis 2004, en fait, si on construit une nouvelle maison ou un nouvel immeuble, on n'a plus le droit de mettre un gazon devant. Et là, en juin, les députés de l'État du Nevada, ils ont même décidé d'interdire à partir de 2025 tout ce qu'ils appellent le gazon non fonctionnel. Donc c'est toute cette herbe qu'on voit pour faire joli entre deux rues, à un croisement, mais où personne en fait ne promène son chien ou ne joue.
Water Waste Investigator 7158, here on a formal follow-up, fee is recommended.
Il y a eu même la mise en place d'une Water Patrol dans cette région. Vous avez d'ailleurs suivi un policier de cette patrouille ?
Oui, j'ai suivi un policier qui s'appelle Perry Kay, qui dirige une équipe d'une cinquantaine de policiers qui sont dédiés à repérer, à prévenir et à sanctionner les infractions dans l'usage de l'eau. Donc en fait, je suis montée à bord de sa voiture et on a été dans une gated community, donc c'est ces complexes de maisons sécurisées où on entre avec un badge, etc. Et c'est là où il y a le plus d'infractions parce que les propriétaires, qui sont souvent assez fortunés, ils emploient des jardiniers qui, eux, pensent qu'un client heureux, c'est celui qui a un beau gazon bien vert et qui ont donc tendance à trop arroser ou à des heures où c'est interdit. Alors qu'en fait, il y a des règles super précises. Donc, on peut pas arroser dans l'après-midi, par exemple, parce que c'est l'heure où, vu la sécheresse, la terre absorbe l'eau le plus vite. Selon les saisons de l'année, on peut arroser que 2-3 fois par semaine, voire une fois en plein milieu de l'été. Et on n'a pas le droit d'avoir un système d'arrosage défaillant ou une pelouse trop en pente qui fait que l'eau va quitter la propriété. Donc en fait, cette équipe de police, elle passe son temps à s'arrêter, à guetter un peu s'il y a une flaque d'eau au milieu de la route, s'il y a une tache gris foncé sur un trottoir, etc. Et elle essaye de faire de la sensibilisation. Et si la personne ne change pas son système, eh ben ils ont le droit de demander de payer 80 à 160 dollars d'amende. Voilà, donc ça conduit pas mal de gens à décider de remplacer leur gazon par ce qu'on appelle du desert landscaping. Donc c'est des plantes et des pierres qui sont davantage adaptées à un environnement désertique, donc des cactus, des plantes succulentes, de la sauge, etc. Et la ville a mis en place pas mal de subventions pour aider les propriétaires à faire ça.
La chasse au gaspillage de l'eau, c'est une chose, mais est-ce que ça sera suffisant ?
Bah, disons que la chasse au gaspillage qui est basée sur la bonne volonté et pas obligatoire, ça va pas vraiment être suffisant. On le voit bien là parce que l'État fédéral a décidé mi-août que l'allocation en eau de l'Arizona et du Nevada diminuerait l'année prochaine. Pour l'Arizona de 18% et pour le Nevada de 7% et aussi via un accord avec le Mexique de 5% pour le Mexique. Donc c'est la première fois dans l'histoire des États-Unis que l'État fédéral prend cette décision. Et si ça continue de se dégrader et que le lac Mead y perd encore 7 mètres pour descendre à 320 mètres, la Californie aussi sera affectée par des coupes obligatoires. On pense que ce sera probablement en 2023 ou 2024.
On avait déjà parlé ensemble, Anaïs, il y a un an, des incendies qui ravageaient la région du nord au sud de la Californie, notamment. Une autre illustration de la sécheresse. Il y a un enjeu pour les consommateurs, pour la douche, la toilette, mais le principal enjeu concerne l'agriculture, parfois gourmande en eau, et notamment les agriculteurs de Californie.
C'est l'enjeu numéro un, parce que l'agriculture, elle utilise 85% de l'eau de la Colorado River. En fait, on a fait pousser des champs dans des zones arides ou semi-arides où rien n'aurait jamais poussé à part des cactus si on n'avait pas dévié l'eau de la Colorado River. Donc l'une de ces zones qui est extrêmement dépendante de cette eau, c'est l'Imperial Valley, qui est cette région qui est au sud de la Californie, à la limite du Mexique et de l'Arizona. C'est vraiment un des greniers agricoles très importants des États-Unis. Il y a des champs à perte de vue avec des cultures de laitue, d'oignons, de carottes, mais aussi de luzerne qui sert à nourrir le bétail. Et en fait, ces agriculteurs, ils ont l'un des droits les plus favorables à l'eau parce que les familles qui ont commencé à cultiver là-bas au début du XXe siècle, quand l'eau de la Colorado River leur a été amenée, elles ont été parmi les premières à faire une demande d'utilisation de cette eau. Et en fait, dans l'Ouest américain, c'est un système de droit à perpétuité sur la base du principe « premier arrivé, premier servi ». Donc les agriculteurs, ils n'ont pas beaucoup d'incitation à repenser leur manière de faire de l'agriculture, qui repose jusqu'ici sur ce qu'on appelle la flood irrigation. Donc c'est en fait, on inonde les champs en ouvrant les canaux. Donc l'idée, c'est de réussir à les inciter financièrement à arrêter de faire ça et plutôt d'utiliser des systèmes d'irrigation goutte à goutte qui sont moins gourmands en eau. Et aussi à passer à des cultures moins consommatrices d'eau, notamment le problème c'est la luzerne qui est aussi contestée parce que bon, elle n'alimente pas directement l'homme mais les vaches et souvent ce sont des vaches d'autres pays lointains en Asie ou au Moyen-Orient parce que cette luzerne est exportée. Donc disons que certains végétariens y voient l'illustration des limites du régime très carné de la planète, mais les agriculteurs eux, ils vont dire que ce surplus d'eau, il est nécessaire parce que il y a la question de la Salton Sea qui est ce lac un peu plus à l'est de l'Imperial Valley. Et donc, en fait, ce lac, il se vide si les agriculteurs utilisent moins d'eau. Et ils dégagent des nuages de poussière, donc ils vont provoquer pas mal d'asthme, etc. Donc, c'est un problème assez complexe à résoudre. I'm going back.
La Colorado Song de The Ozark Mountain Daredevils pour accompagner le blues d'un fleuve qui s'assèche, un drame partagé par d'autres fleuves dans le monde comme l'Indus, le Rio Grande, la Mudaria ou le fleuve Jaune. Une liste qui s'allonge, le Rio Paraná, deuxième plus grand fleuve d'Amérique du Sud après l'Amazone, connaît ainsi son pire étiage depuis plus d'un demi-siècle, m'apprend une dépêche AFP. Son lit désespérément bas a affecté la marine marchande, la production d'électricité, la pêche, l'industrie touristique, l'approvisionnement en eau pour la consommation et l'irrigation. Et il a même modifié les reliefs, peut-être de manière permanente. Quelques 4000 barges, 350 remorqueurs et 100 porte-conteneurs attendent maintenant que le niveau d'eau remonte, alors que son tronçon navigable s'avère vital pour les exportations de la Bolivie et du Paraguay, deux pays enclavés et traversés par le Paraná. L'eau potable est une ressource en danger dans de nombreux territoires. Déjà 14 des plus grandes villes du monde font face à un stress hydrique au moins un mois par an. C'est dans ce contexte de risque de pénurie que se développe un nouveau pan de la finance internationale autour de l'eau, en passe de devenir un produit financier. Et ça se passe à Wall Street.
Ça se passe au Nasdaq et au Chicago Mercantile Exchange. Donc, c'est le grand opérateur de la bourse qui est connu pour les valeurs technologiques. Et puis, le Chicago Mercantile Exchange, c'est la grande bourse des matières premières aux États-Unis.
Étienne Goetz est journaliste au service marché des Échos.
Et ces deux opérateurs de bourse ont lancé en décembre dernier des contrats à terme sur l'eau californienne. C'est des contrats financiers et comme sur tous les marchés de matières premières, vous avez un marché physique, un vrai marché où on échange de la vraie matière première, donc du pétrole, du blé, du soja. Et puis au-dessus de ça, vous avez un marché financier qui reflète ce marché physique. Et le marché financier sert à avoir des instruments financiers pour se couvrir contre une évolution défavorable des cours. Donc, quand vous êtes une compagnie aérienne, vous avez des contrats financiers sur le pétrole pour pas subir une hausse du kérosène. Et bien là, avec ces contrats à terme sur l'eau californienne, les grands consommateurs d'eau de cet État des États-Unis, donc principalement les agriculteurs, notamment des producteurs d'amandes et les grandes municipalités comme Los Angeles, vont pouvoir avoir un instrument financier et se protéger contre une évolution défavorable des prix de l'eau.
C'est symbolique de l'importance stratégique de cette ressource pour l'économie dans certaines régions ?
Oui, parce que ce soit en Californie ou en Australie, où il y a aussi des marchés de l'eau, ou au Chili, l'eau est essentielle et on en manque de plus en plus. Et la rareté de cette ressource vitale montre qu'on a besoin d'un mécanisme pour pouvoir se répartir le mieux possible cette ressource essentielle. À mon avis, c'est pas étonnant qu'en Australie ou au Chili, qui est un peu un laboratoire du libéralisme, école de Chicago, ou en Californie, quel mécanisme on pense être le meilleur, ben c'est le marché. Donc le marché, en mettant un prix sur l'eau, on pense que ça va permettre une meilleure allocation de cette ressource pour pouvoir l'utiliser et optimiser son utilisation.
Justement, comment est-ce que les prix de l'eau ont évolué ?
Alors, ils évoluent de façon un peu attendue, c'est-à-dire que quand il fait très sec, ça monte, et quand il pleut, ça baisse. Pour vous donner un ordre d'idée, la mesure, c'est l'acre-pied, donc c'est 1,2 million de litres, c'est un peu abstrait, c'est grosso modo une piscine de 25 mètres avec 8 voies et 3 mètres de profondeur. Donc, c'est une grosse piscine municipale, et donc ce volume d'eau, ça coûte en ce moment 918 $. Et au printemps dernier, c'était plutôt 500 $ quand il n'y avait pas encore de stress hydrique particulier.
On voit une évolution assez forte. L'eau californienne, elle est cotée en bourse. Et vous le disiez, il y a aussi des expériences en Australie. Étienne, à quand des bourses mondiales de l'eau sur le modèle du pétrole ?
Je pense jamais, pour une série de raisons. La première, c'est quand même une matière première. Il y a une dimension éthique et morale à coter en bourse l'eau. Depuis 2010, l'eau est un droit de l'homme. Le droit à l'eau potable et un service d'assainissement, c'est un droit de l'homme reconnu par les Nations Unies. Donc j'imagine mal que tout le monde fasse ça et le cote l'eau en bourse et se mette d'accord. La deuxième raison, c'est que l'eau est une matière première, mais c'est pas une matière première comme les autres. Alors que, comme le pétrole, c'est standardisé, c'est fongible, personne n'en a le monopole. Mais, contrairement au pétrole et à d'autres matières premières, c'est un pondéreux. Donc, c'est une matière première qui pèse extrêmement lourd et qui a une valeur marchande assez dérisoire par rapport à son poids. Un mètre cube d'eau, c'est une tonne. Mais la valeur marchande d'une tonne d'eau est négligeable par rapport à une tonne de pétrole. Ce serait pas forcément très rentable et donc ça pose plein de questions. Il y aurait aucun intérêt à transporter de l'eau à travers le monde comme on le fait aujourd'hui, à transporter du pétrole d'Arabie Saoudite vers l'Europe en passant par le sud de l'Afrique. Enfin, ce serait complètement aberrant. Et puis c'est une matière première donc qui se transporte très difficilement. Et si elle le fait, c'est sur des très courtes distances. Et c'est pour cette raison que la plupart des économistes que j'ai interrogés disent non, mais il n'y aura jamais de marché mondial de l'eau. Ce seront toujours des marchés locaux et extrêmement locaux, et même en Californie. Et en fait, c'est un indice, c'est des contrats à terme sur 5 marchés différents qui font des moyennes en fonction des transactions de tous ces différents marchés. Donc voilà, ça, c'est assez rédhibitoire pour qu'il y ait une bourse mondiale de l'eau comme il y a une bourse mondiale du pétrole. Et puis alors, après, il faut que ce marché financier fonctionne. Et pour qu'il fonctionne, dans le cas de l'eau et dans le cas des autres matières premières, il faut qu'il y ait de la liquidité. Et la liquidité sur le marché de l'eau, elle sera très compliquée parce que, comme je vous l'ai expliqué, ce seront des marchés extrêmement locaux. Et donc, il n'y aura pas assez de transactions, il n'y aura pas assez d'acteurs pour avoir une liquidité suffisante. Si vous êtes un acteur de marché, vous voulez que quand vous allez sur le marché ou à la bourse, il y ait toujours une contrepartie. Quelqu'un qui vende ou qui achète en fonction de ce que vous voulez faire. Et si vous avez des marchés extrêmement locaux, ce sera très compliqué de trouver cette liquidité et de trouver cette contrepartie nécessaire. Et puis alors après, il y a toutes les questions autour de l'eau. Qu'est-ce que c'est comme bien? Est-ce que c'est un bien privé, un bien de marché? Est-ce que c'est un bien public? Est-ce que c'est un bien commun? Est-ce que c'est un bien de club? L'un n'empêche pas l'autre, mais les économistes que j'ai interrogés me disent tous c'est un bien commun, c'est un bien de club. Quand c'est dans un réseau, c'est parfois un bien public. Mais un bien de marché, il y en a peu qui y croient parce que pour que ce soit un bien de marché, il faut pouvoir bien exclure l'accès à l'eau à certaines personnes. C'est très facile pour le pétrole. Vous avez un stock à un endroit donné et vous pouvez empêcher les gens de pomper. D'ailleurs, tout le monde ne peut pas pomper. Mais pour l'eau, on ne peut pas empêcher l'eau de couler. On ne peut pas empêcher les gens d'aller se servir à la fontaine. On ne peut pas empêcher de pleuvoir à un endroit plutôt qu'à un autre. C'est impossible de bien cantonner l'eau et sa production, donc c'est très difficile d'en faire un bien de marché.
Merci Étienne Goetz, journaliste au service Marché des Échos. Merci Anaïs Moutot, journaliste aux Échos Weekend, pour cette descente le long du Colorado. La Story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver La Story sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. Et si vous voulez lire en long et en large le reportage d'Anaïs avec de très belles photos, rendez-vous sur leséchos.fr.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.